Donc, même si on est un petit groupe, on va quand même passer à travers du matériel ce matin dans Genèse 9. Dans le fond, j'ai préparé les notes pour le reste du chapitre 9. Mais on va voir ça ce matin. Il y a des textes quand même assez, je dirais pas complexes, là, mais dont l'interprétation n'est pas claire à première vue. Là, c'est que moi-même, c'était la première fois que j'étudiais ça. C'est que ça a été comme plus long à comprendre puis à bien expliquer. Fait qu'on va. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier pour notre temps ce matin ensemble avant qu'on commence? Pascal, tu penses que je peux? Non. Jacques, tu peux. Ouais, c'est bon, ça marche. Est-ce qu'il y en a qui étaient là vendredi soir au spectacle? Vous êtes venus? Vous étiez là aussi, oui? J'ai entendu des bonnes choses. Il y avait un spectacle, c'était un concert-conférence pour Pâques là, avec M. Caz. Un homme qui s'est converti il n'y avait pas si longtemps que ça, là, quand même. Il enseigne la musique à l'Université McGill. C'est lui qui dirigeait une chorale classique vendredi soir, là. Puis il y avait son témoignage en même temps. En tout cas, j'ai entendu que c'était bien, j'étais pas là, mais ce matin aussi, il y a quand même toute une préparation pour Pâques ce matin. Je sais qu'on a des amis qui ont travaillé fort pour la présentation ce matin. Fait que vous pourrez en bénéficier. Donc, tournez avec moi dans Genèse 9. On n'aura peut-être pas le temps de couvrir tout ça ce matin, mais je vais vous dire un peu ce qu'on va prendre le temps de regarder ensemble. On va revenir sur quelques points qui concernent l'alliance de Dieu avec l'humanité, l'alliance de l'arc, je l'appelle. Parce que Dieu fait une alliance, puis le signe de son alliance, c'est l'arc-en-ciel. Donc, on en a parlé souvent dans d'autres contextes, on va juste quand même relever certains points. Après ça, on a l'événement là, avec Noé qui s'enivre de vin, et puis Cham, Sam et Japhet, comment ils ont réagi face à ça. Et on en a parlé brièvement la semaine dernière, mais on va juste regarder un peu plus et de comprendre, là, à prime abord, lorsqu'on lit le texte, on a de la misère à comprendre pourquoi est-ce que Cham, il lui a reproché quelque chose dans l'histoire. Mais c'est clair qu'il est répréhensible, en tout cas. On va essayer de voir probablement pourquoi il a été répréhensible dans cette courte histoire-là. Mais cette histoire-là mène à une prophétie de la part de Noé. C'est là peut-être que les choses se compliquent un petit peu, parce que Noé, lorsque Noé va se réveiller de son état d'ébriété, d'ivresse, ses deux fils les plus vieux, probablement que c'est les plus vieux, vont lui raconter, quand je dis c'est probablement les plus vieux, probablement Cham est le plus jeune, vont lui raconter ce que Cham a fait, et là, Noé va faire une prophétie. C'est vraiment sous forme de prophétie qu'il présente ça, puis c'est assez dur ce qu'il va dire. Puis c'est vite comme ça, c'est pas évident à comprendre. D'ailleurs, c'est un texte qui a été interprété drôlement dans l'histoire de l'Église. Bon, on va juste prendre le temps de regarder, vous donner probablement une piste d'interprétation, je pense, qui fait du sens, là. Non, mais on a parlé la semaine dernière, on l'a mentionné. Je l'avais jamais mentionné, mais c'est clair que c'est pas nécessairement des triplets, et c'est pas des triplets. Dans le texte, on voit qu'il y en a un qui est plus jeune que les autres. Quand c'est dit que Noé a engendré ses fils lorsqu'il avait 500 ans, même l'expression « engendré » n'est pas nécessairement toujours père-fils. Premièrement, même dans les généalogies, des fois, ça dit tel homme a engendré tel autre homme. Ça ne veut pas dire qu'il l'a engendré directement comme son fils. Ça peut être une génération qui a sauté ou deux même. Le concept hébreu, lorsqu'on parle d'engendrer puis on fait une généalogie, c'est de mes entrailles est sorti éventuellement ce descendant-là, mais c'est pas directement... Ça se suit pas directement. Puis lorsqu'on compare deux des généalogies de Genèse, la généalogie de Genèse 10 puis celle de 5, on voit que même en une occasion, tout du moins, il y a une génération qui est sautée. On les compare côte à côte. C'est soit... Mais lorsqu'on va arriver à Genèse 10, je vais vous le montrer. Il y a deux généalogies qui sont à comparer. C'est qu'on voit le souci, c'est pas nécessairement d'être suivi, mais autant que de montrer que de certaines lignées, il y a des gens qui sont sortis, il y a des événements qui sont arrivés par la suite. Donc, pour ça, pour dire, si on revient à Noé, lorsqu'il avait 500 ans, on sait que même avant cette mention-là, c'est mentionné qu'il y a juste Noé qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu comme étant un homme juste. Pourtant, ses fils ont suivi dans ses pas, mais c'est probablement pas tous ses fils qui ont suivi, c'est les fils qui ont engendré après sa 500e année. C'est qu'il y a sûrement eu d'autres enfants avant, dans les premiers 500 ans, mais ils n'ont pas plus suivi l'Éternel. Mais ces trois-là ont dû naître à quelque part entre l'an 500 de Noé et l'an 575, on va dire, parce qu'à leur entrée dans l'arche à l'an 600 de Noé, ils étaient déjà capables, il y avait déjà des femmes, puis ils étaient capables de faire une famille. Là, parce qu'en sortant un an plus tard, Dieu leur dit aux huit de procréer puis de remplir la terre. Là. C'était des hommes déjà mariés, c'est que probablement au moins donné leur au moins 20-25 ans. C'est qu'ils sont nés entre 500. Ça veut dire que Noé a eu des fils qui construisaient l'arche. C'est que ces enfants-là sont nés dans un milieu, ils sont nés dans une réalité où ce que leurs parents, est en train de vivre par la foi, évidemment, mais ça se manifestait concrètement qu'ils bâtissaient un engin dont l'utilité pour les gens autour avait aucun sens, puis tout, comme on en a déjà parlé, c'est qu'ils ont vécu là-dedans. Et donc, ils ont embarqué dans la foi de leur père, assez clairement. Puis on va voir quand même que Cham, il y avait de quoi qui... Cham, pour un des trois, il y avait de quoi qui était dans son cœur. Je ne dis pas que c'était pas un homme qui... Il a fait confiance à Dieu. Je crois qu'il a embarqué dans la foi de son père. Pour lui-même, il s'est approprié. Il a eu foi en l'Éternel, mais il y avait un aspect rebelle dans son cœur qui semble se ressortir dans l'histoire qu'on va voir. Quelque chose qui mijotait, parce qu'on va voir que c'est pas juste arrivé dans l'histoire. La réaction de Cham démontre plus que ça. Il n'y a pas juste péché en cette occasion-là. Ça l'a révélé quelque chose dans son cœur, certainement. Donc oui, ça pour dire que c'est pas des triplets, mais probablement qu'ils sont nés dans les 100 ans préalables au déluge. Donc, on arrive au verset 8. Et là, on en a parlé souvent, donc j'ai juste quelques points à mentionner pour l'alliance de Dieu avec les hommes, avec les humains. Dieu parlant encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. » Avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. Quelques points ici, c'est la première fois qu'est mentionné le terme alliance dans les Écritures. À part lorsqu'il y a une prophétie au chapitre 6, on parle de l'alliance à venir. Il est mentionné là, mais c'est la première fois qu'il est mentionné ici comme Dieu est en train d'établir une alliance avec quelqu'un. Puis on voit, puis ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas juste avec Noé, avec ses fils, mais c'est une alliance qui est faite avec nous aussi. Si on lit bien ici, c'est avec votre descendance après vous. C'est vraiment une alliance qui est faite avec toute l'humanité à naître aussi. C'est que on peut se l'approprier aujourd'hui, cette alliance-là, cette promesse-là que Dieu a faite, elle est pour nous aussi. Puis elle est aussi avec les animaux. On voit Dieu faire vraiment une alliance avec tous les animaux qui sont sortis de l'arche, tous ceux qui ont souffert du déluge. Là, on voit qu'il spécifie vraiment tous les animaux du terrestre, tous ceux qui ont dû embarquer dans l'arche pour pas périr comme le reste. C'est avec Dieu, encore une petite fenêtre qui nous montre que Dieu se soucie aussi de sa création. C'est pas vrai que les animaux ils ont pas le souci de Dieu. De la part de Dieu, on pourrait aller chercher d'autres versets dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus utilise... un exemple de la création pour nous rassurer comment est-ce qu'il nous aime, nous, puis qu'il se soucie de nous. C'est quoi qui prend comme les petits passereaux? Il n'y a pas un passereau qui tombe sans que Dieu ne le sache. Là. Certainement qu'on Dieu a un souci pour sa création, pour les animaux aussi. Puis l'alliance est clairement avec eux aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est avec nous aussi, cette alliance-là. Et voilà ce qu'elle est au verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. » Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et c'est, voilà la promesse que Dieu dit. Plus jamais je vais redétruire la terre au moyen de l'eau, au moyen d'un déluge universel. Voilà la promesse que Dieu fait aux êtres humains. Comme on l'a déjà mentionné, c'est certainement une promesse qui résonne bien, qui est réconfortante pour les huit personnes qui viennent de sortir de l'arche, puis pour les gens subséquemment aussi. Parce que là, ça va être nouveau même pour eux de voir des nuages, de voir de la pluie, parce que c'est pas quelque chose qu'il y avait avant le déluge. Fait que juste peut-être la venue de couverture nuageuse puis de pluie, tu sais, me semble que ça fait naître chez toi certains souvenirs peut-être qui t'excitent plus ou moins. Là. Ce qu'on a vu, il y avait beau être dans l'arche, ça n'a pas été là, une partie de plaisir pendant cette année-là. Ouais, genre, c'est que... C'est de savoir qu'ils peuvent compter sur une promesse de Dieu, que Dieu ne va plus intervenir de cette façon. Et d'ailleurs, le signe qu'il leur a donné, c'est un signe qui apparaît justement lorsqu'il y a condensation, lorsqu'il y a formation nuageuse dans le ciel, ou est-ce que c'est à ce moment-là peut-être que tu pourrais commencer à craindre, mais c'est à ce moment-là aussi que Dieu établit son signe qui devrait te rappeler de cette promesse-là. T'sais. C'est que le signe n'arrive pas n'importe quand. On le sait, comme je l'ai déjà mentionné, un arc-en-ciel se produit vraiment lorsqu'il faut qu'il y ait de l'eau sous forme liquide dans l'atmosphère, ce qui n'était pas possible avant le déluge. Okay, pour ceux qui n'étaient pas là, avant le déluge, il y avait une couche d'eau qui enveloppait l'atmosphère, qui rendait la possibilité de condensation pratiquement nulle dans l'atmosphère. C'est que la condensation de l'eau vaporeuse sous forme liquide, ça se faisait pas avant. Mais c'est ça qu'on a de besoin pour un arc-en-ciel. Hein. Dans le fond, il faut de l'eau liquide, il faut des gouttelettes dans l'atmosphère, puis il faut les rayons du soleil qui sont en arrière de nous, qui vont transpercer les gouttelettes, puis qui vont avoir diffraction dans le fond de la lumière, qui va tout se représenter sur tout le spectre électromagnétique, le spectre des couleurs. T'sais. C'est pour ça, là, donc une quantité de gouttelettes, la lumière qui passe au travers de toutes ces gouttelettes-là va tout révéler les couleurs sous la même forme du même spectre, puis ça donne il y a toute une explication physique pour la forme de l'arc-en-ciel puis la répartition des couleurs. Mais il faut ça, puis c'est ça que Dieu dit dans le texte. On descend un peu plus loin, puis on voit Dieu qui dit voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir, incluant les animaux que mentionne au verset 10. Et je place mon arc dans la nuée. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, donc c'est nécessaire que les nuages soient rassemblés, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. Ce qui est intéressant, c'est que je me souviendrai, Dieu prend le temps de regarder son signe et il dit pour lui-même qu'il va se souvenir de l'alliance qu'il a contractée avec nous. Et ce qui est un peu tragique de nos jours jusqu'à aujourd'hui, c'est que même nous, des fois, on l'oublie, on n'est pas conscient. L'arc-en-ciel, c'est bien une formation qui suscite beaucoup d'admiration, là, je veux dire, ça suscite de l'admiration encore aujourd'hui. Là, quand tu as un bel arc-en-ciel, là, n'importe qui va dire « Wow, c'est un appareil photo, ils vont prendre une photo. » Lorsqu'on était à Hawaï, justement, sur une des îles, il pleuvait tellement souvent que des arc-en-ciel, on en avait énormément, mais c'était très prisé, là, la vue, tout ça. Mais dans le fond, l'idée, c'est pas qu'on ne peut pas s'émerveiller devant l'arc-en-ciel, mais on miss de pointe, on passe à côté de tout ça. Dans le fond, on pourrait dire, là, je regarde l'arc-en-ciel, puis Dieu est en train de la regarder en même temps, puis il est en train de se rappeler de son alliance avec moi. Tu sais. Je comprends que nous, on est sous la nouvelle alliance, et cette alliance-là, c'est peut-être pas celle qui a le plus de poids pour nous, là, de savoir qu'on est sauvé de nos péchés, a beaucoup plus de poids que d'avoir la crainte qu'on se fasse inonder demain matin. Mais c'est quand même une alliance que Dieu a fait avec l'humanité. Certainement qu'à l'époque, c'était une promesse qui était prisée de la part des croyants. Mais c'est intéressant de voir qu'on ne pense pas à ça. Et pourtant, ici, il n'y a aucune raison que Dieu n'a arrêté de se servir de ce signe-là, parce que c'est une promesse qu'il a dit jusqu'à la fin, la terre ne sera pas détruite par les eaux. Puis, deux autres petits commentaires. On a vu dans le texte que c'est si on veut être vraiment fidèle au texte des Écritures, ça n'a aucun sens de parler d'un déluge local. On l'a vu, là, comment même au niveau du texte dans Genèse 6, les expressions utilisées, on se demande, les idées de déluges locaux sont certainement pas vues d'une exégèse du texte, d'une interprétation du texte, mais sont venues d'ailleurs, parce que dans le texte, c'est fait sûr de la part de l'auteur que c'est un déluge universel. C'est assez évident. D'autant plus ici, je veux dire, quelque part, le sens de cette promesse-là perdrait de son poids si ce n'était pas justement un déluge universel, parce que des déluges, il y en a eu en masse là, depuis après l'avènement du déluge universel. Il y a eu plein de déluges locaux. Là. Puis on voit jusque encore récemment dans les nouvelles, là, quand il y a des tsunamis ou des trucs, là, des fois dans l'Est, en Orient, tout ça, bien, je veux dire, c'est des déluges. Les gens qui le vivent, là, c'est pas le fun. Là. Mais c'est localisé. La promesse, c'est par rapport qu'il n'y aura plus un déluge universel. Donc, c'est parce qu'il y a eu un déluge universel. C'est pas parce qu'il y a eu un déluge local en Mésopotamie, puis Dieu, après ça, fait une promesse qu'il n'y enverra plus de déluge. Ça a comme plus ou moins de poids. Là. Puis l'arc-en-ciel aussi, juste le fait que Dieu se serve du signe de l'arc-en-ciel. Si des arc-en-ciel, il y en avait eu tout le temps avant, là, parce que je ne sais pas trop, il y avait eu des déluges avant aussi, puis il pleuvait, ça a moins de poids aussi. Tandis que c'est un signe nouveau. c'est un signe qui a un impact. Chez les gens, ça a un impact. Quand tu n'en as jamais vu une, moi, je me mets à la place de Noé, puis c'est la première fois que tu en vois une, mais je suis désolé, là, quand tu as vécu 600 ans, puis tu en as vu des affaires, mais là, c'est impressionnant, tu sais. Nous, on s'est habitué un petit peu. Depuis qu'on est tout petit, on voit des arcs-en-ciel, puis on est encore impressionné quand on les voit. Je veux dire, pensez-y, là, c'est quelque chose pareil. Les couleurs sont vraiment distinctes l'une de l'autre, puis c'est tout le temps présenté sous une forme d'un arche. Puis même avant qu'on comprenne l'aspect physique, juste comme ça, on pourrait penser à de la magie. Là, tu sais, je veux dire, je peux m'imaginer des peuples anciens expliquer ça d'une façon religieuse, l'apparition d'un arc-en-ciel. Tu sais. Ouais, des trucs comme ça. J'y croyais encore jusqu'à récemment, mais cette semaine en lisant, non, c'est pas non, mais c'est ça. Donc, je pense que c'était les quelques commentaires que je voulais faire. On en a parlé souvent de cette alliance-là. Et le terme alliance, juste dans le texte qu'on a lu, là, il revient 8 fois, ce terme-là, alliance. Et, je crois quelque part, Dieu veut que les générations futures se souviennent que c'est une alliance inconditionnelle qu'il a avec tous les hommes. Et malheureusement, c'est la tragédie, c'est souvent les hommes s'en sont pas rappelés et ils ne regardent pas ce signe-là comme tel. Donc, on arrive au verset 18. Et là, on va arriver à l'histoire de Noé, de son ivresse et de Cham. 18 à 24, on va le relire et puis on va repasser au travers du texte. Les fils de Noé, verset 18, qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Si on irait dans Genèse 10, on verrait que Canaan, c'est le plus jeune fils de Cham mentionné dans Genèse 10. Éventuellement le père de la nation des Cananéens, qui était le peuple qui habitait la terre promise lorsque les Israélites sont arrivés dans la terre promise, et c'était les Cananéens qui étaient là, puis bon, ça a été des ennemis, etc. Certainement ici que Moïse, si c'est Moïse qui a été l'éditeur du livre de la Genèse, mentionne cette petite information-là parce qu'il sait que c'est les Israélites qui vont lire le texte pour la première fois, puis là, ça leur donne une information de où vient ce peuple-là, le peuple de Canaan, mais ultimement, son descendant de Cham, un des trois fils de Noé. C'est une petite note et certainement une petite note d'édition ici. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et la raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, maudit soit le fils dans le fond de Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Donc, voilà l'histoire. Juste avant d'embarquer dans l'histoire, on a une petite mention rapide au verset 19 que c'est des trois fils de Noé que la terre a été repeuplée au complet. Très simple comme affirmation, et pourtant aujourd'hui, c'est bien qu'une chose qui est complexe en anthropologie et en recherche, c'est de trouver un petit peu comment est-ce que tous les peuples, même si tu es évolutionniste, là, t'oses croire que tous les peuples viennent d'un descendant commun, puis comment est-ce que ça... De où est-ce que ces premiers descendants-là se sont retrouvés? Comment est-ce que les langues aussi ont évolué? Des fois, en étudiant les langues, tu es peut-être capable d'essayer d'étudier un petit peu l'immigration pour savoir où est-ce que les peuples se sont formés en premier. C'est que tu sois évolutionniste ou non, là, on peut faire la même étude aussi parce qu'à quelque part, on est tous partis du même descendant. Là. Nous, on ne croit pas que c'était un descendant des primates là, comme nous, là, mais on croit que c'était Noé. Mais bon, à quelque part, on peut faire une étude similaire, mais ça reste un mystère aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories qui s'affrontent chez les scientifiques pour expliquer l'origine des races, l'origine des nations, l'origine des langues. Puis ici, en quelques mots, si on fait confiance aux Écritures, ben ça nous spécifie clairement que c'est des trois fils de Noé que la terre au complet a été peuplée. C'est qu'on origine toutes des trois fils de Noé. Puis on sait qu'à peu près, là, ils ont débarqué pas loin du mont Arara, dans les coins là, du Moyen-Orient, Turquie, ces coins-là. C'est que souvent, il y a plusieurs théories d'anthropologie aussi, puis l'étude des langues qui ramènent souvent dans ces territoires-là où est-ce qu'il y aurait eu... l'évolution de l'homme là, dans ce secteur-là de la planète. Fait que si on fait confiance à la seule archive digne de confiance, on a ici l'affirmation que les trois fils de Noé ont repeuplé la terre au complet. On reviendra plus tard sur les langues lorsqu'on arrivera à la tour de Babel. C'est que certainement qu'en sortant de l'arche, Noé a dû s'installer, certainement installé pas loin de l'arche avec son épouse, puis ont commencé à vivre là. On voit dans le texte même qu'il n'a pas juste planté là, une vigne, là, un arbre, il a planté de la vigne. Maxime est venu me le spécifier, mais c'est vraiment l'idée. Tu vois qu'il s'est attardé à la culture de la vigne. C'est que, tu sais, je veux dire, pour faire ça, il a tout bien fallu qu'il fasse pousser puis qu'il s'installe. C'est qu'il s'est vraiment installé peut-être pas loin du Mont Arara dans une vallée avoisinante. Puis certainement que la culture de la vigne, c'était quelque chose de connu. Là. C'est, Noé, il n'est pas comme par hasard, il n'est pas devenu saoul parce qu'il ne savait pas pour lui. Là. Certainement qu'il y avait tellement de connaissances avant le déluge. On l'a vu là, dans Genèse 4, comment que la descendance de Caïn, ça n'a pas été long que la métallurgie, la musique, l'élevage, que l'agriculture a été développée. C'est que certainement que dans l'eau, ils ont développé aussi, entre autres, l'utilisation de la fermentation des raisins. Je ne sais pas comment ils l'ont découvert la première fois, mais bon. On pourrait se poser la même question, comment ils ont découvert la métallurgie, mais bon, Dieu nous a créés assez intelligents pour être des intendants de sa création, puis utiliser un peu ce qu'on voit autour pour notre propre utilisation. Donc, probablement, c'est ça, Noé a dû s'installer pas loin. On voit ici que cette histoire-là s'est produite pas tout de suite après l'arche, parce que Canaan est déjeuné, qui est le plus jeune fils de Cham. Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être une couple de décennies qui se sont passées. Vous comprenez qu'il a fallu que Cham ait le temps d'avoir des enfants, puis avoir au moins son quatrième, puis que, bon, je sais pas quel âge que Canaan avait à ce point-là, mais il était là, parce que Noé parle de Canaan dans sa prophétie. Donc, quoi, peu importe, des dizaines d'années plus tard, certainement que Sem et Japheth n'étaient pas collés après leur père, là, avec, ils n'ont pas installé leur tente à côté. L'idée de, que Dieu, le commandement de Dieu, c'était aller peupler la terre. C'est que certainement, ils se sont éloignés un peu, là. Ils n'ont pas été en Chine, là, mais ils se sont éloignés, puis ils ont installé leur campement, leur village éventuellement, puis là, ils ont eu des enfants, là, qui se sont mariés entre eux, puis, ou entre cousins, peu importe. C'est que là, la population commençait à grandir. Mais certainement qu'ils n'étaient pas très loin, c'est qu'ils devaient revenir voir leur père de temps en temps. Là. Je veux dire, dans cette histoire-là, on voit que les trois fils sont dans le portrait de leur père. Là. Dans l'histoire, ils sont là physiquement. C'est que je ne sais pas si c'était une fête. Mais en même temps, Noé semble pas à s'attendre à avoir de la visite. Parce que c'est ça, tu sais. Je veux dire, juste le fait qu'il est comme tout seul, puis il se met à boire du vin tout seul, bon, ben, il était sûrement pas avec les fils autour de lui, puis il en a bu assez. Puis ça semble être aussi probablement durant la journée, parce que Cham n'est pas arrivé là. Il est arrivé là un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là. Il s'attendait pas à voir son père de même quand il est arrivé. Mais pour qu'il arrive dans la tente de son père, c'est certainement pas à minuit non plus. Bon, ça devait être durant la journée. À quelque part, peut-être que Noé, j'essaie juste de vous mettre dans la peau de ce qui s'est peut-être passé. Je dis pas que c'est ça exactement. Mais Noé, peut-être qu'il s'attendait pas à la visite ce jour-là, puis peut-être qu'il s'est assis, puis a commencé à relaxer, tu sais. Puis de fil en aiguille, bon, il a commencé, je pense pas qu'il s'est dit je vais me saouler. Je pense qu'il a commencé à boire, comme ça peut nous arriver à tous. Quand on tombe dans les excès, c'est souvent pas quand on décide de faire l'excès, mais bon, par manque de vigilance, on tombe dans l'excès. Probablement, c'est ça qui est arrivé à Noé, à un point tel qu'il s'est dénudé. Je pense qu'il s'est dénudé soit pareil. Bouffé de chaleur, il avait bu un point tel qui fait chaud, puis tu sais, il pense qu'il est tout seul à quelque part aussi, même s'il se dévait dans sa tente, on s'entend, c'est que même s'il flambette dans sa tente, ça ne s'attend pas à de la visite non plus, tu sais, c'est qu'à quelque part, on peut comprendre la situation aussi. Bon, c'est mal, il s'est enivré, le texte le dit clairement, mais on a la situation là, puis là, d'un coup, on a Cham, peu importe pourquoi il est là, il a peut-être décidé qu'il venait voir son père, pour peu importe. Dieu a permis qu'il arrive à ce moment-là, puis Cham ouvre la tente, puis voit son père tout nu. Là, dans le texte, on lit ça, bon, ça a l'air correct jusque-là. Même que, comme je vous ai dit, le verbe « voir » ici qui est utilisé, c'est pas juste, il a constaté, il a quand même regardé fixement. Dans le sens qu'il y avait une intention dans son regard, ce qui constatait quelque chose, OK? Bon, on le voit dans le mot hébreu qui est utilisé, mais c'est plus, je pense que ça devient plus clair lorsqu'il s'en va voir ses frères après. Sur le coup, il fait rien. Là. Il aurait bien pu mettre une couverture sur son père, puis faire de quoi, puis dire, je vais au moins mettre de quoi pour pas que quelqu'un d'autre arrive. Probablement, ses frères étaient là aussi. C'était peut-être une réunion familiale. C'était pas le temps que son petit-fils voie aussi son grand-papa. C'est que, tu sais, il aurait pu faire de quoi, mais c'était... On voit dans le texte, son souci n'a pas été de ça. Son souci, ça a été d'aller rapporter à ses frères ce qu'il venait de voir. Puis le, même en français, dans notre traduction, nous, le rapporter, ça a une côté, même ça tombe qu'au Québec, c'est un peu négatif. T'sais. On dit, nos enfants, arrêtez de rapporter. Là. C'est de ramener, c'est quoi ton objectif quand tu viens me rapporter ce que ton frère a fait, dans le fond. C'est pratiquement la même idée ici. C'est que ton frère a fait quelque chose de mal, puis toi, ben là, tu veux que ton frère soit condamné parce qu'il a fait de mal, puis tu viens me dire ça à moi, l'autorité, puis à quelque part, ça révèle pas nécessairement que ton cœur à toi est plus obéissant. Il y a un peu de rébellion, il y a un peu d'orgueil, il y a un peu le désir du mal chez l'autre. Tu sais. C'est que certainement que dans le terme rapporté ici dans l'hébreu, il y a un élément de négatif, il y a un élément où c'était satisfaisant pour Cham de rapporter ce qu'il venait de voir à ses frères. Puis le contexte va confirmer ça parce qu'il y a quelque chose de mal que Cham a fait parce que son père lui reproche quelque chose. Puis si son père lui reproche quelque chose, c'est parce qu'il s'est fait raconter par ses deux autres fils parce que lui, il était saoul, il s'en rendait pas compte. Ses deux autres fils sont les témoins, c'est eux qui ont entendu ce que leur frère est venu leur rapporter. Pour eux, ils n'ont pas repris leur frère verbalement dans le texte, on le voit pas tout du moins, mais ils ont certainement repris Cham en action, tout du moins, ils ont fait ce que Cham aurait dû faire depuis le début. Ils ont reçu l'information, puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés protéger l'honneur de leur père. T'sais. Il y avait un élément où c'était déshonorant, tout court, pour la famille de voir Noé dans son état de péché, puis de le voir nu aussi. Là. C'était déshonorant de le voir nu, de le voir dans son intimité, puis de le voir aussi dans son péché. T'sais. C'est que certainement qu'ils ont voulu préserver l'honneur, puis ils ont voulu préserver l'honneur, ça l'incluait de ne pas voir la nudité de leur père, c'est que ce sont reculons pour ne pas la voir, puis ils ont couvert la nudité de Noé. T'sais. C'est que certainement que dans le texte ici, on a assez d'indices pour conclure avec pas mal de certitude que Cham, il a comme été satisfait de trouver son père dans un état de péché. Ça l'a satisfait, puis à un point tel qu'il est allé le rapporter à ses frères sans résoudre le problème, il est allé le rapporter, il dit « Écoutez, frère, le père, vous devriez venir la voir, il est flambette, là, tu sais, bon. » C'est qu'il y a de quoi de mauvais, là, tu sais, c'est que... Et là, on pense à l'expérience humaine, on essaie de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans son cœur, parce qu'on peut l'avoir dans notre cœur à nous, ou on l'a vu dans le cœur de nos enfants, ou peu importe. Puis on s'imagine, il y a certainement une racine ou une racine, je dirais, ou peut-être une disposition à la rébellion dans le cœur de Cham. C'est comme si, c'est pas arrivé ce jour-là qu'il a décidé de se rebeller, c'est comme si cet événement-là a révélé tout d'un coup, garde là, finalement, mon père qui marche avec Dieu, qui est juste, puis c'est sûr qu'ils ont reçu un enseignement de rectitude morale, puis de foi en Dieu, puis de justice. Je veux dire, ils ont été élevés par leur père qui construisait un bateau là, pour obéir à Dieu. Il semblerait, je ne sais pas si ça a pris combien de temps, mais Cham avait de quoi dans son cœur. Puis on peut finalement se l'imaginer là, nous-mêmes, tu sais, des fois, là. Tu sais, là, tu m'enseignes la vérité, tu m'enseignes la sainteté. Attends un petit peu que je te voie pas saint, toi, à un moment donné, tu vas voir. Tu sais, mais. Ça a plus ou moins rapport que tu sois saint ou non. Ce que tu m'enseignes, l'important, c'est que ce que tu m'enseignes, que ce soit la justice de Dieu. Puis lui, Dieu, je sais qu'il est juste, puis je sais qu'il ne me décevra pas. C'est que même si toi, tu me déçois un jour parce que ce que tu m'enseignes, tu n'arrives pas à l'accomplir à 100%, c'est pas pour ça que j'obéis. Mais dans le fond, je vois que Cham, c'est comme il attendait ce moment-là, ou en tout cas, quand il est arrivé, son attitude, ça a vraiment été de là. Finalement, je peux reprocher de quoi à mon père, ou je vais même aller plus loin que ça, je vais aller le dire à d'autres, leur dire, venez voir, papa, qu'est-ce qu'il a fait, puis ça fait dur son affaire. Mais ça révélait son cœur à lui. C'est comme s'il était rebelle face à la justice divine. C'est comme s'il n'avait pas le goût de devoir lui-même se plier à la justice divine. T'sais, quand il a vu quelqu'un qui a failli, ben, attends, je vais en profiter. Il y a une forme de raillerie, une forme de... Je l'ai écrit dans d'autres mots, je vais peut-être le dire ici, là, comment j'ai écrit ça, il dit... On se réjouit. On peut s'imaginer ici une forme de rébellion secrète, peut-être de l'orgueil face aux enseignements reçus sur les exigences divines de sainteté. Alors, on se réjouit du manque de sainteté de l'enseignant, ce qui nous permet de condamner et de se donner à nous bonne conscience. Il y a un aspect aussi, ça nous donne bonne conscience parce que dans notre cœur, on ne veut pas nécessairement suivre la justice, suivre la sainteté. C'est du ressentiment, probablement qu'il y avait du ressentiment de la part de Cham aussi qui était caché dans son cœur face à l'autorité paternelle, face à la rectitude morale de Noé. C'est que, comme je vous dis, c'est des pistes de réflexion, c'est pas marqué clairement dans le texte, mais c'est clair qu'il y a quelque chose de négatif qui était dans le cœur de Cham. Et ses frères, à lui, ont réagi autrement. Il était aussi conscient que Noé venait de pécher. Là, il était saoul, il savait, ils l'ont bien constaté eux autres mêmes, mais ils ont décidé de protéger son honneur. À quelque part, ça révélait leur cœur. Peut-être qu'ils étaient. plus tu es conscient de ton propre péché, plus une situation comme ça va moins t'amener à te révolter parce que tu es conscient que toi-même, tu pourrais être dans la situation de Noé ou les fils pouvaient être conscients qu'ils auraient pu être dans cette situation et t'es pécheur aussi. C'est quand tu fais face à une situation comme ça, tu vas être moins vite à porter jugement ou condamner, mais tu vas peut-être exercer de la grâce à quelque part comme Dieu a exercé envers les 8 personnes. On s'entend que le déluge, c'est un exercice de la grâce de Dieu. Là. Le déluge, c'est un exercice de la justice, mais c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée parce qu'il a sauvé 8 personnes à travers ça. T'sais. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce qui a pu se produire dans cet événement-là. Est-ce que c'est clair? T'sais, je me suis bien exprimé. Là, j'essaie de voir dans mes notes s'il y avait d'autres choses, mais je pense qu'on peut discerner ça. C'est que même, on sait qu'on est la nature pécheresse n'est pas disparue dans le déluge, elle s'est pas faite inonder avec le reste. Là, c'est clair que de Noé, de ses 3 fils, elle a naître toute la planète qu'on a aujourd'hui. Là. C'est que la nature pécheresse est encore là, puis certainement qu'on voit dans le cœur de Cham qu'il y avait de quoi là, qui était là. Puis il était rendu en âge qu'il avait déjà eu plusieurs enfants, là, Canaan était né. C'est qu'on peut s'imaginer qu'il y a, s'il y avait vraiment ce ressentiment-là dans son cœur, puis ça a pris une situation de même pour que ça sorte, c'est clair que ses enfants, lui, devaient certainement avoir une influence de ça aussi. Là, c'est pas vrai qu'il pouvait cacher ça partout, là, dans ses paroles, dans ses agissements, ce genre de ressentiment-là, ce genre de rébellion-là dans son cœur. À quelque part, on voit que la prophétie a plus ou moins rapport avec ça, mais oui, en même temps, c'est qu'on voit que ça... On peut facilement s'imaginer les générations qui suivent, puis avoir des générations parce qu'il y a des rébellions contre Dieu, puis d'un coup, il y aurait du ressentiment envers l'Éternel, puis d'un coup, tu te mets à pu marcher avec Dieu comme tes pères marchaient avec Dieu. Déjà, Cham, on voyait, je dis pas que Cham n'était pas un homme qui vivait par la foi, mais en tout cas, à ce point-là, dans sa vie, on a clairement une révélation un peu de son cœur, déjà assez rapidement après le déluge. On parle de quoi, quelques décennies après le déluge. On arrive au verset 24. Et là, on tombe dans la prophétie de Noé. Et là, c'est un vite comme ça, là, quand on lit ça, c'est un petit peu là, ça nous dépasse un petit peu. Là. Moi, je veux dire, je lis ça, puis ça me semble pas évident en lisant qu'est-ce qui s'est passé. Mais une chose est claire, c'est que Noé a été averti de ses fils, de ce que Cham a fait. Puis Noé, conscient de du cœur de Cham, a prononcé cette prophétie. Puis là, il dit. Il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. D'ailleurs, c'est le verset qui nous mentionne que Cham serait le plus jeune des fils, son fils cadet. Puis là, Noé dit, maudit soit Canaan. Là, c'est étrange. Premièrement, il dit pas maudit soit Cham. Il dit maudit soit le fils de Cham, puis en plus le plus jeune des fils de Cham. Bon, qu'il soit l'esclave des esclaves, OK? Ça, c'est la seule fois dans les Écritures que le terme esclave des esclaves. T'sais, le terme esclave va revenir à d'autres places, mais là, c'est esclave des esclaves, ça a l'air pas mal beau, là, tu sais. Des esclaves, et une bonne traduction d'ailleurs, ce serait pour ses frères. Certaines traductions marquent de ses frères, là, mais c'est plus pour ses frères. En anglais, il dirait unto his brethren. C'est une meilleure traduction. Donc, il serait l'esclave des esclaves pour ses frères. C'est pas qu'il serait l'esclave des esclaves de ses frères. Okay? Donc, on s'arrête juste au premier verset, verset 25, puis par la suite, il va dire qu'il soit l'esclave de Sem, qu'il soit l'esclave de Japhet. Et là, Cham, en tant que personne, n'a pas été esclave de ses frères. Il ne semble pas avoir été l'esclave de ses frères dans le restant de l'histoire. De toute façon, ici, déjà, que Canaan soit utilisé pour la malédiction, il y a certainement une idée ici que la malédiction, elle est sur la descendance de Cham. Pour le reste de sa descendance, il va avoir une prophétie où est-ce qu'il y a malédiction sur eux. Un peu comme Caïn et Abel. On a vu la descendance de Caïn, il y avait une malédiction. Pas une malédiction, mais on a vu comment est-ce que leur père, Caïn, comment son attitude s'est reflétée dans sa propre descendance par la suite. On l'a vu dans Genèse 4, comment la descendance de Caïn, c'était comme Caïn, dans le fond, qui continuait à vivre à travers sa descendance. On a vu qu'il y a eu un impact. On le voit de nos jours, c'est clair que la grâce de Dieu est là, mais on peut certainement voir dans une descendance des traits qui reviennent à cause des traits des parents, etc. Vous comprenez, à l'époque, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu là, qui habitait en nous, qui habitait dans les croyants non plus. Donc, on a ici vraiment une idée que ça, c'est pas juste à Cham, mais c'est à sa descendance. Maintenant, pourquoi est-ce que Canaan a été ciblé? Ça, c'est pas clair. Il y a plusieurs pistes de réflexion. Pourquoi Canaan? Je pense pas que Canaan, dans le texte, ça ferait pas du sens avec le reste de l'enseignement biblique que juste Canaan doive subir la conséquence du péché de son père, tu sais. Pourquoi le plus jeune, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son problème à lui, tu sais. Pourquoi il est ciblé, là, je m'enlignerai pas là-dedans, là, il y a plusieurs idées, là. Parce qu'il y a eu 3 autres fils minimum, là, Cham, là. C'est bon, pourquoi lui? Peu importe. Une chose est claire, c'est qu'ici, il y a vraiment l'idée que c'est la descendance, la prophétie concerne la descendance des 3 frères. OK? Puis c'est exemplifié dans la personne de Canaan. C'est ça ici qui est l'intention de Noé, c'est de parler d'une prophétie concernant les descendances. Maintenant, vous savez, ce texte-là a été utilisé, peut-être vous venez qui étaient au courant, moi j'avais déjà été au courant, là, a été utilisé pour expliquer pourquoi dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui ont été esclaves de d'autres peuples, comme étant une prophétie ici qui s'est accomplie, puis entre autres avec les Noirs, les Africains, là, toute l'idée là, qu'ont été esclaves pendant plusieurs années là, des Occidentaux, c'était pratiquement un texte qui était utilisé pour justifier ça, ou en tout cas expliquer que c'était leur destin dans le fond. Là, voilà ce qui est arrivé, parce que c'était ça que Dieu Noé a fait cette prophétie-là, puis voilà, bon, le péché de leur père fait en sorte, mais ça a vraiment été une idée qui a circulé, c'est une idée que les peuples noirs, ce serait comme... Il y en a qui ont été plus loin que ça. Il y a-tu une époque où ce que la génétique était mal comprise, début du 20e siècle ou 19e siècle, ou est-ce que même il y en a qui ont suggéré que Sem, Cham et Japhet étaient 3 couleurs différentes, tu sais. Puis que parce qu'aujourd'hui, de ces 3-là, toutes les races, j'aime pas le terme race, là, mais je l'utilise pareil pour parler le terme race est un terme très évolutionniste, là. Ça peut même suggérer qu'entre nous autres, entre les êtres humains, si on est des races différentes, on n'est peut-être pas tout rendu au même développement dans notre évolution, vous comprenez, là. Ultimement, le racisme trouve beaucoup plus de base dans l'évolutionnisme que dans les Écritures. On peut pas trouver cette base dans les Écritures. Un autre sujet. Mais c'est pour dire que même jusqu'à là, c'était ça. Il y a l'idée, là, c'est arrêter Cham, le noir dans les 3. Vous comprenez l'idée? Puis lui, arrêter l'esclave de ses frères. Bon, mais c'est le genre d'idée-là qu'il a pu avoir. C'est que faire attention, faire attention, on interprète un texte. Et pourtant, lorsqu'on va dans Genèse 10, puis qu'on voit dans Genèse 10, c'est assez clair c'est quoi les peuples qui ont été issus de Sem et de Japhet. OK? C'est assez clair. Puis historiquement, on a une bonne idée c'est qui les descendants de Japhet, c'est qui les descendants de Sem. Et par conséquent, par déduction, on a une bonne idée qui ça devrait être donc les descendants de Cham. Et lorsqu'on regarde ça, on est bien conscient que les Noirs sont. Encore, j'utilise le terme noir, là. Les gens à peau noire n'ont pas tous été descendants de Cham. Il y en a dans les 3 descendances. Puis certainement qu'historiquement, en regardant les peuples de Genèse 10, ça marche pas la patente qui aurait été esclave des autres. Parce que dans la descendance de Cham, il y a des peuples là-dedans qui ont tout le contraire d'avoir été des esclaves. Ça a été des peuples très dominants, des peuples qui ont eu des empires dans l'histoire de l'humanité. Et dans les descendants de Japhet, comme dans les descendants de Sem, il y en a des peuples qui ont été esclaves de d'autres peuples, mais il n'y en a pas plus de Cham qui ont été plus esclaves des autres. Vous comprenez? Cette idée-là d'être esclave, dans le sens qu'on le comprend, là, un peuple qui domine un autre peuple, un peu comme les Occidentaux ont dominé les Noirs pendant un temps, ou les Égyptiens ont dominé d'autres peuples, ou quand les peuples conquéraient d'autres peuples, ils les dominaient. Mais historiquement, on n'est même pas capable de prendre cette prophétie-là puis de parler d'esclavagisme carrément, ou de dire, OK, ouais, la descendance de Cham a vraiment été plus esclave que les autres ont été esclaves de Cham. C'est pour ça que cette interprétation-là ne se tient pas. Ça se tient pas, puis ça se tient pas historiquement. C'est qu'il faut essayer de trouver une autre explication à cette prophétie-là, parce qu'en même temps, c'en est une prophétie. Là. Noé n'est pas en train de parler des airs, puis il y a de quoi qui va s'accomplir. Puis à quelque part, la descendance de Cham a été d'une certaine façon esclave des esclaves pour ses frères. Mais ça veut dire quoi? Et là, je vais vous proposer une explication. Mais avant ça, on va y revenir au chapitre 10 un petit peu, mais voilà ce qui semble clair dans le chapitre 10. Et suivant pour les descendants de Sem. Il semblerait vraiment que les descendants de Sem se sont tous groupés autour du Moyen-Orient dans ces coins-là. Là, je vais aller retrouver mes notes. Là. Tous les Juifs, les Arabes, Juifs, Arabes, Syriens, Assyriens, Babyloniens, Perses, seraient tous des descendants de Sem. Okay? Tous ces peuples-là qui, à travers l'histoire, ont été un petit peu dans la région du Moyen-Orient. Là, Assyrie, Syrie, Perse, Babylonien, Juif, Arabe, jusque dans la péninsule arabe, bon, tout ce coin-là. Là. Ce seraient les descendants de Sem. Puis là, ce qu'on voit dans Genèse 10, puis que, bon, on regarde les termes utilisés, puis les régions décrites, puis qu'après ça, les historiens, puis on prend d'autres textes historiques, puis on peut facilement déduire ça. Tandis que les nations japhétiques, les nations, les descendants de Japhet, ça aurait été tout ce qui est tous les Indo-Européens. Alors moi, Indo-Européens, je n'étais pas trop sûr, là, ça avait de l'air Inde puis Europe, mais je voulais juste confirmer sur Wikipédia. Donc les Indo-Européens, c'est vraiment ça, c'est tous les peuples d'Eurasie, c'est-à-dire on parlerait des les Albanais, Arméniens, Baltes, Celtes, Germains, Grecs, Latins. Et même un peu plus, c'est pour ça que c'est indo-européen, les Indiens, les Iraniens, les Scythes, les Slaves. C'est que tout, dans le fond, notre, un peu ce qui correspond à notre Europe actuelle, plus ou moins, mais aussi un peu plus à l'Est aussi, Iran, Inde, ces coins-là. Là. C'est ce qu'on appelle, même en anthropologie ou en étude des langues, là, c'est un terme utilisé, les indo-européens, puis il y aurait une langue commune à eux qui serait originaire, une langue européenne, indo-européenne, commune à tous ces peuples-là. En tout cas, ça serait, quand on regarde dans Genèse 10, les descendants de Japhet seraient vraiment toute ce gang-là. Les Assyriens, on parle du peuple vraiment des Assyriens à l'époque. Je ne sais pas exactement géographiquement, mais c'est vraiment un peuple à un moment donné qui a été appelé les Assyriens. Probablement qu'il était dans ce coin-là, mettons, si on se fie à aujourd'hui, mais aujourd'hui, mettons, dans l'histoire, ça n'a pas tout le temps été les Assyriens, mettons, qui ont été là, mais le temps qu'ils ont été là, c'était un peuple qui était issu de la descendance de Sem. C'est qu'ici, dans le fond, les Indo-Européens, c'est vraiment, historiquement, c'est pas tout le temps les mêmes peuples. Voilà, c'est ça. Les Indo-Européens, c'est ça, c'est comme si, dans le fond, ça fait un peu le tour, c'est un peu, parce que t'as les Slaves, les Baltes slaves, là, tu t'en vas chercher un petit peu là, jusqu'en Inde, c'est que tu fais un peu le tour, là, tu sais. Un peu le tour du Moyen-Orient. Je parle de Japhet, le Japhet indo-européen. Ce qui reste après pour Cham, là, le reste, puis on a dans le texte de chapitre 10, on l'a aussi, mais Cham, ce serait pas mal tout le reste, OK? C'est que tout ce qui est les peuples, les tribus mongoles, excusez le terme, mais c'est un peu ça l'idée, là, les asiatiques, tout ce qui est japonais, chinois, donc plus à l'est, vraiment oriental, passé l'Inde, OK? Donc, où est-ce qu'on nous on appelle l'Asie, l'extrême Asie aujourd'hui? Cham aussi, ça aurait été, de Cham, il y a eu des peuples très, très puissants, dont les Égyptiens, les Sumériens, deux peuples qui ont vraiment dominé pendant un temps au nord de ce que notre Afrique actuelle. Donc, on parle de deux grands peuples comme les Égyptiens, les Sumériens. D'autres nations qui nous ont mentionnées même dans les Écritures, les Phéniciens, les Hittites, les Cananéens, des peuples qui descendent de Cham aussi. Si on regarde plus aujourd'hui, tous les peuples actuels, on dirait africains, mais on s'entend qu'africains, outre quand même Égyptiens, ça les inclut. Donc, les peuples actuels africains descendraient de Cham aussi en grande partie. Les peuples orientaux, incluant chinois et japonais, les Amérindiens, ultimement là, ceux qui ont colonisé les Amériques, parce que dans le fond, plus tu allais vers l'Est éventuellement, là, quand tu t'en allais vers l'Est, si c'est vraiment les descendants de Cham, ils se sont rendus plus vers l'Orient, plus vers les coins des Orientaux actuels, ben, tu continuais ton chemin un bout de temps, puis à un moment donné, tu arrivais, pognais à l'Angleterre, puis tu transférais dans les Amériques actuelles. C'est que les Amérindiens, tous les habitants des îles des mers du Sud aussi sont probablement d'origine chamitique, d'origine de Cham aussi. C'est que là, quand on parle des îles du Sud, on parle vraiment un peu plus de tout ce qui est Australie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, la Polynésie, ces trucs-là. Là. C'est que, si vous êtes, je voulais amener la paix, c'est que je voulais amener une carte du monde. C'est pas tout le monde qui l'ont imprégné dans leur tête, là, mais si vous avez moindrement une map monde imprégnée dans votre tête, vous voyez un petit peu ici. Vous voyez des peuples qui, vous voyez, mettons, Sem, pensez qu'ils sont concentrés vraiment autour de ce qui est le Moyen-Orient actuellement, là, tu sais, péninsule arabique, là, Israël, Syrie, tout ça, ce qu'on a actuellement, là, bon. Là, c'est comme si Japhet, lui, était un peu plus vers l'ouest, tout ce qui était venu Europe. Au nord de ça, les pays celtes, les pays baltes, slaves, puis un peu plus à l'est, là, tu sais, pas trop, mais, tu sais, Inde, Iran, tout ça, juste là, là. C'est que ça fait un petit peu un croissant autour du Moyen-Orient. Puis après ça, Cham, c'est le reste. Il est parti vraiment vers le sud, donc l'Afrique. Il est parti vraiment vers l'est, les Orientaux, puis plus loin encore, les Amériques. Puis vers l'est, peut aller vers le sud, puis frapper la Malaisie, puis toute l'Indonésie, puis éventuellement, bon, je sais pas comment ils sont arrivés en Australie, mais il y a l'Australie plus loin, puis bon. En tout cas, j'aurais dû amener une carte du monde, mais ceux qui avaient moindrement ça dans votre tête, vous avez un peu une idée ici de comment est-ce que les nations se seraient réparties des descendants des trois fils. Ton heure est à la bonne heure. Il est moins 10, vous avez moins 10, quelqu'un d'autre? Oui, non, c'est quoi? Est-ce que c'est clair? C'est important, avant d'essayer de vous donner une interprétation du texte, d'avoir une idée c'est quoi les trois descendants, ou sinon on va plus ou moins comprendre là, qu'est-ce qui s'est probablement passé. Là. Est-ce que c'est assez clair?
Okay. Il faut comprendre aussi quand même les trois enfants. Oui, il y avait plusieurs enfants. Fait qu'on peut pas, on peut dire des descendants de Sem, mais lui, il y avait peut-être déjà, je ne sais pas, 10 générations, 10 enfants, là, déjà, plus combien de 10 enfants, tu sais.
Quand la prophétie a été donnée, elle concernait vraiment les descendants des trois fils, mais cette descendance-là avait déjà commencé. Comme on l'a dit, Canaan était déjà né. Là. Si on voit dans Genèse 10, c'est que oui, il y a déjà une partie de la descendance qui vit. Là. Il y a déjà certainement même des traits là, qu'on peut voir dans la descendance. Si on voit, dans le fond, juste pour mentionner, c'est au verset 6 du chapitre 10, les fils de Cham furent Cush, Mistraïm, Put et Canaan. OK? C'est Canaan semblerait être. L'ordre d'habitude dans lequel il donne dans les généalogies, l'ordre là, des enfants, normalement, c'est du plus vieux au plus jeune. Normalement, mais encore là. Hein? C'était pas dans les fils de Noé, c'était pas le cas, là, moi. Ouais. Les fils de Noé, t'as mis dans quel ordre? Sem, Cham et Japheth, moi. Ça a certainement rapport, je suis pas encore rendu au chapitre 10 dans mes lectures, mais ça a certainement rapport au fait que même quand il disait, en tout cas. Quand je disais les commentaires, c'était même pas clair que Cham était le plus jeune, qu'il était un plus jeune. Mais ça a peut-être rapport avec ça, là, parce que dans le Sem, Cham et Japheth, l'ordre qui est donné. En tout cas, j'y reviendrai là-dessus, mais j'ai peut-être lu, j'ai pas lu le chapitre 10, mais il disait, c'est une bonne question d'ailleurs, je vais prendre en note, c'est une bonne question, là, l'ordre des enfants quand il est donné ici. Là. Je vais juste le prendre en note la prochaine fois. Là. Ce ne sera pas long.
C'est une des raisons que Canaan, qui n'a pas été identifié sur les autres pour la malédiction, du fait que s'il était le plus jeune ou un des plus jeunes, ça n'empêchait pas qu'il suivait son père, qu'elle a été comme témoin de tout ce qui s'est passé, qu'il a comme participé dans son.
Ben, c'est pas mentionné dans le texte, en tout cas, là, mais c'est ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée comme un. Mais il y a différentes idées pourquoi que ce soit Canaan. Pourquoi Canaan a été identifié plus que d'autres? Est-ce que c'est parce que Canaan, c'est le plus jeune fils de peut-être le plus jeune fils de Cham, puis que Cham, il serait le plus jeune fils de Noé, c'est qu'il y a une corrélation là? C'est-tu parce que Canaan veut dire quelque chose pour le juif qui lit les Écritures à ce moment-là, puis que c'est pour ça qu'ils ont mentionné Canaan particulièrement? Il y a plusieurs. Excuse-moi? Oui. C'est pour ça qu'on pense pas que c'est Canaan qui est ciblé autant que ça descend à la descendance de Cham. Maintenant, je veux dire, l'idée que des descendants souffrent le péché, si on veut, de leur père, c'est pas qu'une idée qui est nouvelle. Je veux dire, jusqu'à un certain point, quand Ève et Adam ont péché, je veux dire, on a hérité de la nature pécheresse par la suite, toute la gang, là, tu sais. Là, on tomberait dans des discussions, en tout cas, d'autres discussions théologiques, là, mais cette idée-là n'est pas nouvelle. Là. Et ça ne veut pas dire non plus que dans la prophétie, tous les membres de la descendance de Sem, de Cham, vont être automatiquement esclaves, des esclaves. Okay? C'est clair que c'est une prophétie générale. C'est clair que lorsqu'on fait l'étude des peuples, ça ne se tient pas partout tout le temps. Là. Il y a énormément d'exceptions. Mais il y a une prophétie pareille. Bon, j'essaie juste de vous donner une piste de réflexion pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter. Mais c'est clair que ça c'est pas une loi qui va être suivie à la lettre. C'est vraiment une prophétie générale. Parce que tout du moins, on peut même pas constater dans l'histoire qu'il y a vraiment eu ça. Là, t'sais. Tout le monde qui sont nés de telle affaire ont tout le temps été esclaves des autres. Historiquement, ça se tient même pas. C'était pas un peuple esclave, les Cananéens, du tout. En tout cas, c'était pas un peuple esclave. Là. Les Cananéens, c'était un peuple qui régnait dans la terre promise. Puis je veux dire, ils se sont battus avec les Israélites en masse. C'était pas un peuple qui était particulièrement en esclave. Oui. Tu as dit que c'était
un texte prophétique de, justement, lorsque les Israélites vont être esclaves en Égypte, ils vont sortir, ils vont aller prendre Canaan, donc ils vont rendre esclaves.
Oui, sauf que. Pourquoi qu'il serait esclave de Japheth? Japheth n'a comme pas rapport non plus là-dedans. Là. De la descendance de Sem, éventuellement, tu as le peuple juif. Là. Il y a Japheth aussi qui est inclus là-dedans.
Ah,
Il y a certainement une corrélation. On va y arriver. Là. Oui, il y a quelque part, mais il y a déjà fait aussi que, dans le fond, Cham, sa descendance va être esclave des esclaves pour ses frères, les deux. Pas juste pour Sem, tu sais. Puis là, plus tard, je reviens, mais plus tard, on a plus d'idées encore. Là, c'est mentionné, c'est juste pour Sem qui est mentionné que... c'est juste à Sem qui est mentionné la personne de Dieu. Même, il dit, il ne parle pas pour les autres frères, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». OK, c'est quoi l'idée ici? Que Canaan soit leur esclave. Après ça, verset 27, que Dieu mette Japhet au large. Là, ça nous aide à comprendre, mais qu'on essaie de comprendre ça encore. Ça veut dire quoi, mettre Japhet au large? C'est quoi le sens hébreu ici? Et que Japhet demeure dans les tentes de Sem. C'est quoi cette idée-là? Il y a comme une relation particulière entre Japhet et Sem. Après ça, il finit en disant que Canaan va être leur esclave eux aussi. C'est que je vous propose de quoi? Là, je sais que c'est à la dernière minute. Je vais peut-être, au lieu de tout l'expliquer, puis je sais que ça va être à moitié, je vais vous donner juste des pistes de réflexion. Donnez une piste de réflexion, puis vous y penserez cette semaine. Moi, entre-temps, je vais regarder le... C'est une des choses que c'est difficile des fois de préparer un cours de même. C'est le genre de questions qu'on se pose, vous voyez. Puis j'ai pas pensé à l'idée des ordres des enfants qui sont mentionnés, puis c'est-tu nécessairement de l'aîné au cadet, tu sais. Mais là, tu lis des affaires, puis là, tu es totalement en train de te poser des questions tout le temps. Là, tu vas rechecker un autre texte. Bon, ça a-tu du sens que le commentaire dit? Peut-être pas, mais en checker un. Puis tu sais, tout le temps, dans ces cas-là, on est quand même dans les textes du début, puis souvent... Il y a beaucoup de questions. On dirait qu'il y en a plus. En tout cas, peu importe. L'idée ici, c'est que, à cause que historiquement, on ne peut pas dire qu'il y a un peuple et une descendance qui étaient particulièrement esclaves dans notre compréhension d'esclaves des autres, on doit essayer peut-être de comprendre qu'est-ce que le terme veut dire ici par esclave. Okay? Surtout, ils disent esclaves des esclaves. C'est que certainement que le terme n'est pas nécessairement, autant dans le Nouveau Testament, le terme n'est pas obligatoirement dans le sens très vil d'un esclave qui doit faire tout ce que tu lui demandes. Ça peut être tout ça dans le sens un peu plus de serviteur intendant. Tu peux certainement, si tu t'en vas dans ce sens-là, je pense qu'on a déjà une piste de réflexion. Si on oublie un peu le terme esclave, on pense plus à un terme de service, d'intendance. Okay? Ça n'ôtera pas la malédiction qui est sur Cham. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, moi, l'explication que je trouve qui fait plus de sens, c'est que tous les êtres humains, on est au service de Dieu dans l'intendance de la création. Depuis le début, autant Noé, autant Adam avant lui, Dieu nous a établis intendants de sa création. On est appelé à dominer et à gérer la création d'une façon intelligente. Okay? On va voir que Noé, ça a été un peu plus compliqué parce que les animaux sont plus gérables comme avant. Il y a une crainte qui s'est établie, la domination est plus difficile, mais on est appelé à être intendant. Une des façons de bien comprendre la prophétie, ce serait peut-être de dire en quoi est-ce que les trois générations, les trois descendances, qui sont chacune d'entre elles appelées à être au service de Dieu dans l'intendance de la création, peut-être que leur intendance va différer d'une à l'autre. Les trois descendances auraient comme un service à l'humanité différent. Puis, une des descendances, son service à l'humanité, serait aussi un service pour les deux autres dans leur exercice de leur intendance. Je me fais clair, là, c'est comme si on est une équipe de trois, où est-ce qu'on vise un même but, le vrai boss, c'est Dieu, OK? On est des serviteurs et on fait l'intendance, on gère de quoi pour Dieu, sa création. Mais moi, mon rôle à moi, ça va être beaucoup plus, je suis un serviteur, je suis pas un minable, je suis un serviteur au même titre que les autres, mais mon service va aussi servir le service des deux autres. C'est-à-dire que je vais être comme le serviteur des serviteurs, comprenez? Je vais être l'esclave des esclaves pour mes frères. C'est que mes deux frères vont faire le travail, comme moi je le fais aussi, mon travail est aussi important, sauf que moi, mon travail à moi est aussi un service pour eux, pour aider leur service à eux aussi à être plus efficace. Et même ultimement, ce qui va arriver, c'est ça la malédiction aussi, c'est que c'est comme si mon service à moi, il va peut-être se limiter à quelque part, puis mes frères vont reprendre ce que j'ai fait comme service envers eux, puis vont l'amener plus loin. C'est comme si les autres vont prendre, moi je suis peut-être, ils vont profiter du service que j'ai fait à l'humanité, puis les autres vont l'amener encore plus loin, tu sais. C'est que, ça n'a peut-être pas l'air clair comme ça, mais la réflexion, c'est peut-être d'essayer de voir, dans l'humanité, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut être des bons intendants de la création de Dieu, OK? Puis si on essaie de voir qu'il y a des différents domaines, entre autres un des domaines spirituels, c'est d'être responsable de recevoir la révélation de Dieu, puis de la communiquer à l'humanité. Là, tu sais. Dieu se révèle, on veut conserver la connaissance de Dieu, on veut recevoir la connaissance de Dieu, puis on veut la transmettre. Bon, Dieu s'est créé un peuple, éventuellement le peuple juif, pour cette mission-là. Mais cette idée-là, c'est une idée qui revient en tant qu'humanité. Ça peut être une façon qu'on rend un service d'intendance, un service de plus religieux ou spirituel, je vais utiliser ce terme-là. Une autre façon de faire de l'intendance, c'est d'utiliser notre intellect, notre intelligence, notre curiosité scientifique pour utiliser les éléments de la création, puis les utiliser d'une façon intelligente pour qu'on puisse arriver à mieux être des intendants sur la planète. Donc, tout ce qui est... je suis en train de mélanger deux choses. Tout ce qui est technologie, OK? Tout ce qui est technologie, c'est un autre service. Donc, moi, j'étudie, puis après ça, je réussis à développer des techniques, puis ça m'aide, admettons, à mieux faire l'agriculture, puis à mieux pouvoir... pour voir de la nourriture parce que j'ai étudié au niveau technologique. Puis finalement, le troisième domaine où il y a de l'intendance, c'est plus au niveau de la science puis la philosophie. C'est toute l'idée de réfléchir puis de voir comment est-ce que tu peux développer des systèmes de pensée ou comment tu peux arriver à mieux exercer ton intendance. C'est tout ce qui est science, philosophie, tout ce qui est technologie puis tout ce qui est spirituel, ça serait comme trois classes. Je sais que ça a l'air très... Ça a l'air très simplifié, oui, ça l'est, mais on essaie juste d'essayer de comprendre. C'est que je vous laisse avec ça dans le fond, gardez ça en tête, essayez de voir dans les descendants de Sem, de Cham et Japhet, est-ce qu'on pourrait trouver dans leur intendance à chacun, dans ces peuples-là, où est-ce qu'il y a eu une prépondérance, il y a des peuples qui ont eu plus, que leur histoire est plus marquée par la spiritualité. Y a-t-il d'autres peuples où leur descendance, leur histoire est plus marquée par les innovations technologiques? Y a-t-il d'autres peuples où leur histoire est plus marquée par l'avancement de la philosophie? Quand je dis la philosophie, c'est toute cette curiosité-là intellectuelle à se poser des questions. Historiquement, est-ce qu'on pourrait, à quelque part, expliquer cette prophétie-là en pensant à ça? Moi, je pense que la meilleure interprétation se trouve là. Puis on va y revenir, là. Je pense que déjà dans le texte, si vous allez voir l'idée que Japhet est en la, ça, il est élargi. Excusez-moi le thème, là. Japhet est élargi, puis on a Sem ici qui est mentionné que le Dieu de Sem. Je pense qu'on a des indices. Je vais y revenir la semaine prochaine. J'espère que je vous ai pas mêlé, mais j'aimerais ça quand même qu'on ait une piste de réflexion là-dessus la semaine prochaine.